Radio Okapi.
Okapi. Okapi service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Que faire pour valoriser les ressources en eau du bassin du Congo? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec François Kalele-Voula, promoteur du Centre des recherches, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement. Professeur François Kalele, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également en ligne le professeur Asser Nzovu, expert en droit de l'environnement. Professeur Anser Nzovu, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de l'eau, les ressources en eau de la République démocratique du Congo, comment les valoriser. C'est à l'occasion, vous savez, le 22 mars de chaque année est consacré à la commémoration de la journée mondiale de l'eau. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Quelles sont les avancées enregistrées dans la prise en charge de ces maladies? On en parle avec Dr Yves Loubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Pour Leader Basunga, à la mise en onde, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Le 22 mars de chaque année est consacré à la commémoration de la Journée mondiale de l'eau. La RDC possède une réserve importante d'eau douce. Certains disent qu'il faut faire avancer le projet de commercialisation de cette ressource aux nations qui en ont besoin, car l'eau est désormais cotée en bourse. Nous allons en savoir plus avec nos invités, professeur François Kalele, vous l'avez promoteur du Centre des recherches, d'études et des préventions des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Et nous avons également en ligne le professeur Asser Nzovu, expert en droit de l'environnement. On commence avec vous, professeur Asser François Kalele, vous l'avez. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bien, nous parlons aujourd'hui des ressources en eau de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, quel état des lieux vous faites de cette ressource de la République démocratique du Congo?
Oui, notre pays a l'avantage de posséder une grande réserve en eau, comme vous l'avez si bien dit. La grande difficulté est la communication. Par rapport à l'hydrologie que nous avions eue en 1972, il y a des cours d'eau et rivières qui s'assèchent au nord et au sud, sans qu'on en parle. Et il y a surabondance d'eau là où il y a la forêt qui nous amène les inondations dans les grandes villes. Et sa gestion par rapport aux besoins humains est aussi à ces niveaux-là mal appréhendée par l'autorité, car c'est pas l'eau que nous voyons couler dans nos rivières qui peuvent se transformer en eau potable sans pour autant passer par le traitement. Nous en avons suffisamment, c'est un problème de dépendance des produits qui doivent venir et de grands ouvrages hydrauliques pour pouvoir les transformer en eau potable. Malheureusement, c'est cette eau potable que la plupart d'entre nous utilisent pour arroser ses jardins, et pourtant c'est pas fait pour. Pendant que nous avons des réserves suffisantes en sous-sol qui surabondent et amène à ce que nos cours d'eau, du reste bien servis dans la cuvette centrale, surabondent parce que par la résurgence, nous perdons aussi les eaux souterraines. Donc il y a question d'une bonne politique, d'un côté pour éviter assez que l'assèchement amène l'exode rural de milieux aujourd'hui dont le désert a déjà attaqué à cause des changements climatiques au nord de notre pays au sud, et de l'autre côté, servir notre population et tout ce que notre pays accueille en ayant de l'eau potable, tout en sachant que les deux vecteurs du développement d'un pays, c'est d'abord l'eau et l'électricité.
Bien, professeur, vous affirmez que nous avons beaucoup de réserves d'eau en République démocratique du Congo, mais dans les grands centres urbains et dans certains villages et villes, les gens n'ont pas d'eau. Il y a la pénurie d'eau. Alors comment expliquez-vous ce contraste-là?
Oui, le contraste est pour la seule raison que je viens de citer, la communication. Parce que la régie des eaux a l'avantage de travailler dans les milieux urbains pour traiter l'eau avec des produits chimiques. Par contre, le milieu semi-urbain et rural, c'est le service d'hydraulique rural, SASR, qui est chargé de ça. Et très souvent, on recourt aux sources pour capter l'eau et pouvoir distribuer. Et la distribution, ça coûte cher. Il faut de l'argent pour amener que l'eau soit courante dans les maisons. Et pour ça, il faut une bonne politique prise dans son agrégat pour permettre à ce que nos villages soient bien desservis. Et quand il n'y a pas de cours d'eau, du moins des sources à proximité, il y a des organisations internationales, hélas, pendant que nous sommes ici, malheureusement, les moyens sont limités parce qu'on doit le faire avec les moyens de bord. Ils viennent au secours avec le forage. Et le forage en question, on nous ramène encore à l'Antiquité pour que tout le monde puisse aller au point pour récupérer de l'eau qui sort de la terre. Pendant qu'on peut aussi distribuer cette eau par des mécanismes modernes. Il y a des groupes motopompes à panneaux solaires pour que la distribution par tuyauterie arrive jusqu'au niveau de nos ménages.
Professeur Asernzo, vous êtes expert en droit de l'environnement. Nous parlons aujourd'hui de la valorisation des ressources en eau du bassin du Congo. Comment est-ce qu'on peut arriver à valoriser ces ressources de la République démocratique du Congo?
Merci, monsieur le journaliste. Je salue mon prédécesseur qui est intervenu, qui affirme effectivement, et comme on le sait tous, que la République démocratique du Congo dispose d'abondantes réserves d'eau douce. Que cette eau soit valorisée, il faut que les acteurs interviennent. Jusqu'ici, comme l'a dit le prédécesseur, il y a la régie des eaux et les services hydrauliques qui interviennent. Mais depuis 2015, la loi a prévu l'intervention d'autres acteurs qui doivent intégrer les secteurs, c'est-à-dire les personnes morales, publiques ou privées, et même les personnes physiques, peuvent désormais intégrer ces secteurs. Mais pour qu'ils intègrent ces secteurs, afin de booster et de produire suffisamment d'eau, la province, comme je le disais l'autre fois, et les entités territoriales décentralisées, puissent assumer leur rôle. Leur rôle consistant à mettre sur pied la régie ou le service qui est censé gérer ses ressources au niveau de chaque province. Faire un état des lieux afin d'inviter les investisseurs, les personnes publiques et privées, pour que ceux-ci puissent effectivement produire une bonne quantité d'eau. Parce que tant qu'on n'a pas de producteurs, rassurez-vous que nous allons toujours assister à la pénurie. La loi de l'eau fait de la demande, donc il y a peu d'eau au niveau du marché, et donc les prix seraient influencés par cette petite quantité. C'est comme ça que lorsque on a une production abondante, on peut alors espérer que cette ailleurs sera distribuée suffisamment. Ensuite, la population pourra y accéder à un prix abordable. Voilà donc pour nous les aspects clés qu'il y a, c'est que les acteurs qui ont été chargés à ce jour de veiller à ce que les instruments juridiques soient mis sur pied pour faire intervenir les particuliers et les autres opérateurs économiques puissent travailler de façon à rendre effectif le service public dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire dans la configuration de la libéralisation, dans la configuration de l'intervention tout celui qui a les moyens afin que l'eau soit distribuée à travers la République.
Voilà, donc vous proposez qu'il y ait, qu'on puisse libéraliser les secteurs, qu'il y ait d'autres investisseurs, des privés.
Le secteur est déjà libéralisé.
Il est déjà libéralisé. Voilà.
Il est déjà libéralisé.
Il ne reste plus que des investissements.
Il faut opérationnaliser justement cette libéralisation à travers les acteurs qui sont chargés de ces services.
Bien, le secteur est déjà libéralisé. Il ne reste plus que des investissements pour... se charger de la production la distribution de l'eau à travers le pays. Alors François Kalulé, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour valoriser les ressources en eau de la République démocratique du Congo?
Je vais dans le sens de mon prédécesseur, que je salue au passage, pour sa brillante présentation. La difficulté que nous avons, il y a une loi relative à l'eau qui vient de libéraliser le secteur, comme il a si bien dit. La difficulté, c'est l'expertise, la connaissance de la façon dont on peut capter cette eau, rendre ça potable. Et cette disponibilisation n'est pas encore opérationnelle dans notre pays. Il n'y a pas de faculté de l'eau dans notre pays. Il n'y a pas de faculté qui permette à ce que l'homme congolais puisse rendre cinétique ce qui est potentiel en lui. La difficulté, c'est le financement. Parce que les gens peuvent aller en formation, il y a des formations de courte durée, pour permettre à ce qu'on puisse prendre à bras le corps ce problème. On a libéralisé, oui, mais il n'y a pas de moyens financiers. Or, avec le projet Voula, que nous avons l'avantage de porter, et que nous avons présenté auprès des bénéficiaires potentiels, parce que c'est un produit commerçable, comme vous l'avez dit, et aujourd'hui, coté en bourse, je parle de l'eau, la RDC a tout avantage de pouvoir s'impliquer dans la dynamique, de pouvoir vendre son eau. Et le projet Voula, je le dirais très vite, porte à capter de l'eau par pipeline peu avant l'embouchure pour pouvoir le transférer dans le sens de vendre cette eau au nord et au sud par la création des forêts artificielles dans nos déserts. Nous allons non seulement sédentariser le peuple qui vient nous créer des soucis à cause de l'eau, mais aussi pour notre propre pays gagner de l'argent afin de booster, comme le président venait de le dire, par le mécanisme de l'État, passant par la banque, pour que les opérateurs privés, même les ONG, puissent accéder au crédit. Quand ils ont le crédit et ils savent qu'avec la vente de l'eau, ils peuvent rembourser ce crédit, je crois que tout le monde sera amené à voir s'il ne peut pas aller dans ce secteur. Tant que nous n'aurons pas les moyens financiers pour permettre à ce que le crédit soit accessible à tous, pour, en termes de garantie, ça sera toujours une grande difficulté pour notre pays. Et pourtant, avec le projet Voula, nous avons pu obtenir à Abuja, quand le projet a été retenu sur le plan international pour l'exportation des eaux brutes du fleuve Congo vers les deux déserts d'Afrique, donc au nord, le Sahara et au sud, Kalahari, parce que l'Afrique du Sud en a besoin, il a été promis que les études devraient être financées par la BAC. Et il y avait même un appel d'offres internationales au niveau du Nigeria pour qu'il y ait une conférence internationale de collecte des fonds à hauteur de 50 milliards pour la réalisation des études et du projet proprement dit par rapport à l'exportation et de l'autre côté les 30 milliards de dollars pour permettre à ce que la RDC puisse permettre la pérennisation de l'opération. Ça veut dire comment planter de l'eau pour que l'eau revienne vers nous? On ne peut revenir avec l'eau que quand on arrose. Quand nous n'arrosons pas, l'eau va dans l'océan et revient vers nous sous forme de pluie que trois cycles après. Donc le problème se pose à ce niveau-là. Qu'on puisse organiser par rapport à la loi relative à l'eau, le moyen de financer la garantie de ceux qui peuvent aujourd'hui, avec l'expertise, faire du travail pour compléter ce que l'État est appelé à faire.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la valorisation des ressources en eau de la République démocratique du Congo. Gabriel Nkombe nous appelle depuis Bokungu, dans la province de la Tchopa. Gabriel, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour également à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
À mon humble avis, ce que nous pouvons faire pour valoriser les ressources en eau des forêts du bassin du fleuve, du bassin du Congo. Tout d'abord, je tiens à signaler que c'est le deuxième poumon forestier de la planète après l'Amazonie. Le bassin du fleuve Congo avait pour la première fois fait l'objet d'une mise en valeur en commun par 12 pays d'Afrique centrale et occidentale. Mais c'est aujourd'hui, pour valoriser les ressources en eau de forêt du bassin du Congo, il faudrait créer une dynamique. Ces derniers doivent prendre le leadership du développement durable dans la région. En outre, pour créer une dynamique et crédibiliser la marche permettant de passer de l'exploitation, l'exploitation forestière à un vrai développement correctif, je dis. Pour clore, je dirais, un meilleur accès en eau potable contribue à créer de nouvelles possibilités pour les femmes et les hommes en RDC.
Bien, merci Gabriel. Professeur Hassan Zovon.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue justement les projets que soulève mon prédécesseur. C'est un projet intéressant qu'il faut soutenir dans la mesure où, lorsque il y a des acteurs qui doivent être remis, ces acteurs doivent être financés pour la production de l'eau. Ben, ce financement, à ce jour, les marchés du crédit en République démocratique du Congo n'offrent pas encore des types de crédits capables d'investir dans les secteurs de l'eau, dans la mesure où ces secteurs demandent de gros moyens. Et pour rentrer dans ces investissements, il faut attendre beaucoup d'années. Or, quand on a des crédits de 5 ans, ça ne va pas marcher dans les secteurs de l'eau pour que, évidemment, les acteurs qui veulent intervenir puissent effectivement faire du bon travail. Mais pour que, justement, les crédits soient disponibles, et la balle revient à l'État, aux autorités étatiques, qui doivent assainir, justement, les marchés du crédit et tenir compte des affectations suffisantes de moyens qu'il faut dans les secteurs de l'eau. Et tant qu'on n'a pas encore assaini ces marchés de crédit pour qu'on dégage les capitaux nécessaires, et ça sera justement peine perdue. On va avoir de petits intervenants avec un forage, deux forages, mais ça n'avancera pas. Le pays, ça ne peut pas booster justement les secteurs de l'eau. On a vraiment besoin des investissements, des gros capitaux, des moyens. Et donc les projets, tels que l'a soulevé mon prédécesseur, sont à saluer. Et l'État doit prendre ce genre de projets à bras le corps pour que ça soit réalisé et que tous les petits opérateurs, par exemple, qui sont en difficulté, ou les grands opérateurs qui interviennent déjà, puissent voir comment étendre leur production et que cette production soit à la hauteur de servir effectivement la République.
Professeur Hassan, pourquoi ne pas peut-être assainir le climat des affaires pour permettre aux investisseurs de venir mettre les capitaux, les moyens dans ces secteurs?
Mais justement, j'ai parlé en termes de crédit. Le crédit fait partie du climat des affaires. Lorsque les marchés des crédits est bien assaini. En fait, ça fait partie. C'est vrai que dans les investissements, il y a plusieurs autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Mais justement, ça va dans le sens de ce que nous disons.
Bien. Alors, professeur François Kaluele, le projet vous là-dedans, vous faites allusion. Et c'est un projet qui est porté par le gouvernement parce que c'est au niveau international. Il faut vendre de l'eau, les ressources, exporter les eaux brutes vers les déserts du Kalahari, du Sahara, vers les autres pays africains. Est-ce que c'est un projet d'une structure privée ou c'est un projet porté par le gouvernement congolais?
Bien. Je vais, si vous me permettez, réagir par rapport à mon prédécesseur et à l'intervenant. L'intervenant a bien dit que le bassin du Congo a la signature de 12 pays. Et pour pouvoir l'exporter, il faut impérativement qu'il y ait un appui politique d'un des pays membres du bassin du Congo. Parce que le bassin versant du Congo, les rivières qui se jettent dans notre fleuve pour traverser et aller dans l'océan, nous sommes à 10. 11e, c'est la République démocratique du Congo. Or, avec cette organisation, l'autorité du bassin du Congo a été accordée à la CEAC, à la communauté économique, je dis bien économique, des États de l'Afrique centrale. Et l'avantage que nous avons, et je le salue, je salue encore son Excellence Monsieur le Président de la République et le félicite par le fait qu'il est devenu le président de l'Union africaine, il a besoin de prendre à bras le corps le projet Voula qui se trouve sur son bureau. La difficulté que nous avons connue, c'est avec le Covid. Les collaborateurs du chef de l'État, je cite Jackie Lunga, paix à son âme, qui avait pris le projet à amener auprès du chef, mais le Covid est arrivé, il est parti, paix à son âme, et on ne sait pas où se trouve le projet actuellement. Donc, pour pouvoir toucher à l'eau de la République démocratique du Congo, nous avons besoin, en termes d'exportation, de faire passer par l'appui politique de l'État. Or, le projet Voula est porté par une organisation non gouvernementale. À caractère économique, c'est vrai, mais nous avons une mission altruiste. Ce projet doit être endossé par le gouvernement de la République pour que la CEAC l'amène devant la BADO qui est prête à pouvoir financer. C'est l'unique procédure pour financer ce projet-là.
Professeur Kalele,
se trouve sous les dossiers au niveau du bureau de chef de l'État.
Non, on va...
Parlons maintenant,
professeur, un instant,
si vous me permettez.
Un instant, on va accueillir un auditeur, Gaston de Kinshasa, et puis vous allez continuer. Gaston, bonjour.
Bonjour, Julie.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, de l'eau, on en a assez, hein, vous savez. Peut-être il faut que cette eau-là puisse atteindre ceux qui doivent l'utiliser.
On en a assez, mais il y a des problèmes d'eau un peu partout à travers le pays.
Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est que nous avons l'importance d'abord de l'eau, c'est pour faire plusieurs choses. C'est pas seulement pour boire, qu'on parle de l'eau potable. Non, mais il y a ce que nous voulons que l'eau puisse être un arrêt où la population... partout où il se trouve dans la République démocratique du Congo, on peut en profiter. Donc, à part ça, il y a des eaux potables qui doivent être destinées à la boisson. Là, vous n'ignorez pas.
Gaston, quelle est la question que vous adressez aux invités rapidement?
Voilà. Donc, la question est celle-ci. Hein? Mmh. Pensez-vous, avec les invités qui sont sur votre plateau, que l'eau, actuellement, comme un d'arrêt nécessaire pour la bonne santé de la population, peut être livrée à la population congolaise dans un bref délai? Moi, je pense que c'est pas le cas. Mais j'ai posé cette question pour peut-être dire à vos invités que le problème de l'eau ou transférer dans d'autres pays, c'est pas vraiment une priorité. Donc je pense que c'est peut-être demander d'abord, est-ce que la population congolaise, comment ils se procurent
de l'eau? D'accord. Merci Gaston.
Vivre journalièrement.
Voilà. Donc d'après vous, au lieu d'exporter les eaux brutes de la RDC vers les autres pays, il faut d'abord commencer par satisfaire les besoins internes. Professeur François Kalele.
Oui, les besoins internes seront satisfaits à partir du moment où l'État aura organisé sa garantie bancaire pour que les organisations non gouvernementales et des personnes attitrées dans le commerce, pour dire quelque chose de facile, pour que tout le monde puisse comprendre, de l'eau, puissent avoir de l'argent et investir. Avant de pouvoir amener l'eau, il y a besoin d'un investissement important. Or, notre pays a aujourd'hui cet appui, le projet qui a été retenu sur le plan international, a bâti les autres projets qui sont venus pour lui permettre d'avoir 100 milliards de dollars par an avec la vente de cette eau. Et les 100 milliards serviront, avec la proposition qui a été la nôtre, que les 26 provinces qui chacune participent à un pourcentage donné dans le lit du fleuve Congo puissent avoir au retour cette quotité-là de l'argent. Et à partir de là, mon co-débatteur l'a dit, l'État pourra avoir maintenant le rein solide pour apporter aux banques la garantie pour permettre à ce que cette opération puisse réussir. Et pour nous, et pour ceux qui peuvent acheter de l'eau, Aujourd'hui, l'eau est vendue dans des bidons de 20 litres, je parle de Kinshasa, et nous l'achetons à 200 francs.
Les eaux de forage.
Dans les eaux de forage, justement. Et quand vous allez à l'intérieur, dans le banlieue de la province, du moins de la province de Kinshasa, l'eau est vendue à 500 francs par bidon. Et la population souffre. Malgré cela, la population achète cette eau. Si nous arrivons à encadrer cette production, mon co-débatteur l'a dit si bien, ça nous permettra non seulement à permettre à ce que l'eau consommée dans notre pays soit le moins cher possible. Pour que les riches payent pour les pauvres, il faudra vendre ça aux riches. Les riches en question aujourd'hui, ce sont ceux qui sont dans les déserts, qui en ont besoin par rapport à l'investissement dans d'autres domaines qui nécessitent de l'eau. Il y a l'élevage, par exemple. Au nord, il y a le pétrole. Au nord, il y a besoin d'agriculture. Au sud, ils en ont besoin pour l'arrosage de leur terre. Et à partir de cette vente, l'État pourra se permettre d'apporter cette garantie. Et quand il dit que ça va prendre beaucoup trop de temps, c'est vrai, nous n'avons pas pu communiquer parce que nous n'avons pas de moyens à investir dans la communication aujourd'hui, parce que nous le faisons à fonds propres, et je l'ai dit de façon altruiste, pour que notre pays puisse en bénéficier. Ça veut dire quoi ? Dès que le chef de l'État obtient le document sur son bureau et arrive à le signer, c'est les 30 milliards qui vont descendre. C'est pas encore la vente de l'eau. C'est pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse pérenniser l'opération. Parce qu'il a été dit que nous sommes en train de perdre de l'eau et les cours d'eau s'assèchent. Il faudra qu'il y ait une politique d'accompagnement de cet argent. C'est pas l'argent qui va venir après 10 ans, 20 ans ou après une année.
Vous avez parlé des 100 milliards.
Au niveau de la Banque africaine de développement et la collecte est faite sous l'auréole du secrétaire général des Nations Unies. Voilà.
100 milliards de dollars par an.
100 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires consolidé pour permettre à ce que notre pays puisse rentrer dans son investissement. Je ne crois pas que ça demandera de l'argent dès lors que le financement vient pour cette opération de la communauté internationale.
Comment valoriser les ressources en eau du bassin du Congo? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service des questions et préoccupations. Appelez au 081 890 63 94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Comment valoriser les ressources en eau douce de la République démocratique du Congo? Pierrot nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Pierrot?
Oui, je parle pour valoriser les eaux. Bon, moi, je m'inquiète d'abord. Il y a une mission que vous venez de faire pour le transfert des eaux de Banana vers le lac Tchad.
Est-ce que les eaux de Lubangi, oui.
De Lubangi, oui, vers le lac Tchad. Nous venons de faire cette mission-là, il n'y a pas, si je ne me trompe pas, 4 jours. J'aimerais demander tout d'abord, avant d'analyser quelque chose, est-ce que le projet que vous avez présenté à l'émission, est-ce que ces projets sont similaires? Ça, c'est une première question. Alors, si ce sont des projets qui sont parallèles, quel est le but et quel est l'intérêt de la nation pour ces projets que nous débattons aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question. Alors, pour faire une analyse, monsieur Jody, dans tout ce que nous pouvons parler, nous avons le droit de recourir sur la loi du pays. Est-ce que en République démocratique du Congo, pays de Lumumba, il y a une loi qui régisse sur l'eau, par exemple? Parce que nous souffrons. Et aujourd'hui, il y a même, si je vous dis bien, dans des villages où nous arrivons, même à Kabi, dans le centre-ville,
Pierrot, est-ce que même là-bas à Lubumbashi, il y a des difficultés d'eau, d'accès à l'eau potable?
Je vous dis, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Je voulais dire quoi? Même le député aujourd'hui font des campagnes sur cette eau-là. Il vient avec les forages, il font le forage des eaux, et par après, on met peut-être gratuitement pendant quelques temps, un acte de temps-là, et la population va élire cette personne-là, malgré que cette personne peut être incapable de réaliser un projet, mais parce qu'il nous a manqué avec l'eau des forages, nous lui donnons des voix. Est-ce que si on préfère vendre cette eau pour ceux-là qui en ont besoin, mais pourquoi dire qu'il y a des riches qui en ont besoin pendant que nous, les pauvres, nous souffrons encore et nous payons ça à cœur?
Bien. Merci Pierrot de Lubumbashi. Mouderoi nous a écrit, Patrice Mouderoi nous a écrit sur Facebook depuis Bukavu. Il dit la charité bien ordonnée commence chez soi, dit-on. Il dit pourquoi vendre de l'eau alors qu'il y a encore des besoins. On a des infrastructures de l'argile des eaux qui datent depuis l'époque coloniale. Pourquoi ne pas les réhabiliter et puis peut-être étendre la capacité de l'argile des eaux de servir ces abonnés. Professeur Hassan Zovou.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que l'inquiétude des intervenants, leurs inquiétudes peuvent être partiellement fondées, mais la question telle que soulevée par mon prédécesseur du projet de la vente d'eau me paraît très intéressante dans la mesure où, lorsque je vous ai dit que nous sommes en transition vers l'opérationnalisation des la libéralisation du secteur qui est prévue par la loi. Mais dans cette loi, on parle des provinces et des entités territoriales décentralisées qui doivent être des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qui doivent construire justement les ouvrages chargés de la production et la distribution d'eau. Mais est-ce que nos provinces, nos entités territoriales décentralisées à ce jour, sont capables de construire ces ouvrages? Voilà la question qu'il faut se poser. Mais est-ce que financièrement, ces entités sont en mesure de faire construire ces ouvrages? Mais il y a aussi des sociétés, des opérateurs privés qui peuvent construire des ouvrages. Mais la question qui se pose, c'est la question des moyens. Alors, lorsque nous avons un genre, les projets comme celui qui peut nous aider à faire venir des moyens en République démocratique du Congo, doter les acteurs qui ont reçu ces compétences de ces moyens-là, pour qu'ils matérialisent les ouvrages chargés de la distribution de l'eau. Mais ça ne peut qu'être un projet à saluer. Parce qu'en ce moment-là, ça va nous aider à l'interne, à bien distribuer de l'eau, même auprès de la population qui n'a pas encore accès à l'eau maintenant. S'agissant de la comparaison avec le projet du transfert des eaux potables, plutôt des eaux du bassin de l'Ubangi vers le lac Tchad, dont on a parlé l'autre fois. J'ai entendu un auditeur intervenir là-dessus pour dire mais ce sont des projets parallèles ou c'est des projets qui se contredisent et tout ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction parce que dans le projet de transfert, ce sont les autres qui viennent nous demander de l'eau pour que nous puissions leur envoyer de l'eau. Et c'est comme ça que nous avions parlé des modalités qu'il faut réunir pour que ce projet devienne opérationnel. Mais ici, on a un projet qui part de l'interne, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo, pour la vente. Mais ça, c'est encore plus intéressant. Pourquoi plus intéressant? Parce qu'à ce moment-là, lorsque nous avons nous-mêmes la maîtrise de la production de l'eau à vendre à l'extérieur, après même sur les marchés, nous pouvons nous imposer. Mais si ce sont les autres qui viennent, alors c'est à eux de nous imposer leurs conditions. À ce moment-là, on négocie en position de faiblesse, ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi l'appui politique sollicité par mon prédécesseur ne peut être que salué. Il faudra que l'autorité politique, en particulier le chef de l'État, dans l'un de mes ouvrages d'ailleurs, je parle du président de la République comme l'acteur principal dans le domaine de la matérialisation de la loi relative à l'eau. Et donc en tant qu'acteur principal, la question étant au niveau politique, il ne peut que s'impliquer pour que ce projet aille de l'avant, pour que ce projet puisse aboutir. Mais je voulais aussi souligner que, s'agissant justement des eaux du bassin du Congo, c'est vrai, nous avons beaucoup d'États, la République démocratique n'est pas le seul État, Mais lorsqu'il s'agit de la question de l'eau, tout dépend des types d'impact. Quels sont les effets qui peuvent en résulter? Lorsqu'il est établi, quels sont les effets de prélèvement d'eau à vendre n'a pas d'effet sur les autres États? Eh bien, là, à ce moment-là, c'est la République démocratique du Congo qui agit seule. Mmh. Mais c'est seulement lorsqu'on constate qu'il y a des impacts sur d'autres États qu'il faut, par les mécanismes de la Commission internationale du bassin du Congo, qu'il faut notifier ces projets, cette décision aux autres États. Voilà.
Professeur Asser, oui, Pierrot a demandé, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui? Est-ce que la République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique qui gère cette affaire de vente des ressources en eau?
Numéro 15-26 du 31 décembre 2015 qui prévoit, n'est-ce pas, les règles juridiques qui encadrent la question tant de gestion de l'eau dans son ensemble. Parce qu'ici, je pense que nous abordons la question par rapport à l'eau potable et à l'eau qu'il faut distribuer, l'eau qu'il faut vendre. Mais l'eau en général a beaucoup d'autres ramifications qu'il faut exploiter. Et la loi intervient dans tous ces aspects-là. Mais malheureusement, le cadre n'est pas complet. Et parce que les mesures d'application, dans la plupart des cas, ne sont pas encore mises sur pied. Les autorités chargées de mettre ces mesures de mettre cette loi en exécution doivent rapidement prendre des mesures d'exécution pour que la loi devienne opérationnelle. Et comme ça, on peut facilement s'insérer dans les secteurs, intégrer les secteurs, produire et vendre de l'eau de la bonne manière. Parce que, par exemple, en ce qui concerne même les prix, à ce jour, c'est vrai, la loi a fixé quelques critères, quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour la fixation du prix ou les tarifs d'eau. Il faut qu'il y ait un arrêté interministériel qui puisse intervenir au regard de tous les critères fixés par la loi pour fixer les prix. Donc, si aujourd'hui même on doit vendre, ben, chacun vend l'eau à son prix, à l'intérieur ou à la capitale. Il y a un prix qui varie. Et ça, ce n'est pas bon. Il faudra justement que l'autorité intervienne en tenant compte de tous ces aspects pour fixer les prix qui soient accessibles et qui permettent aux citoyens d'accéder effectivement à l'eau potable.
Bien. Comment valoriser les ressources en eau de la République démocratique du Congo? Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à M. Lévité.
Quelle est votre question?
Oui, j'aimerais savoir, il est vrai qu'en RDC, il y a beaucoup d'eau, mais le problème n'est pas toujours pas fait. Le problème d'avoir l'accès en eau potable. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que M. Lévité, s'il a parti en régie des eaux, pourquoi est-ce que le problème n'est pas fait? Est-ce que c'est parce que la démographie, pour dire le nombre de populations congolaises, est beaucoup élevé? À part ça, si quelqu'un, parce que le problème ne finit toujours pas, s'il creuse l'eau chez lui, dans sa propre maison, est-ce que M. Lévité peut me dire que si cela est légal? Car moi aussi, je vais prendre peut-être désormais une décision de creuser l'eau dans ma propre maison.
Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, dans la périphérie. Beaucoup de particuliers recourent aujourd'hui à l'eau de forage. Magloire, depuis Lubumbashi, nous a écrit... Il dit, s'il faut commercialiser cette eau, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences sur les espèces fauniques et humaines du pays? François Kalulé.
Oui, donc tout ça est repris dans le projet Voula. Pour tout dire, ce que le projet Voula est venu en alternative au projet de transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. En alternative, ça veut dire, c'est pas en parallèle, on était en compétition. Et le projet de transfert des eaux était porté par une firme canadienne qui voulait amener l'eau à ciel ouvert par un canal qu'on appelle communément terrassé. Donc, cette eau n'allait pas être comptée. Et pire encore, nos ressources qui sont dans le lit de la rivière Oubangui allaient traverser sans payer la douane, pour ne parler que de ça. Et la République démocratique du Congo, depuis 1987, feu le maréchal Mobutu avait dit non à ce projet-là. C'était question plutôt de pouvoir garder ce qui était de bon de cette époque-là, mettre de côté ce qui pouvait nous diviser, et trouver maintenant l'alternative, parce que nous avons besoin d'argent pour permettre à ce que nous puissions réaliser par l'entremise de l'État, ce que nous venons de dire tout à l'heure. On est allé à N'Djamena. C'est là qu'on était à deux. Projet Voula et projet CIMA de transfert des eaux. Et on nous a retenus, pendant que CIMA était prêt à être financé, pour aller devant les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays bénéficiaires potentiels. C'était à Abuja. Et à Abuja, on s'est retrouvé en 5 firmes. Ce sont des privés, des organisations non gouvernementales. La firme canadienne est privée, la firme italienne est privée. C'est les projets qui sont venus pour partager contre moyens financiers les eaux du bassin du Congo. C'est alors que le projet Voula a été plébiscité en battant tous ces autres projets. Parlant encore du projet de transfert des eaux de Lubangui, c'est comme si on voulait faire le procès d'un mort qui n'a même plus les moyens de pouvoir parler parce qu'ils ont été effacés. Le projet qui reste, c'est cette alternative à ce projet-là. C'est le projet Voula. Parlons maintenant de l'impact. L'impact, ce sont les études. Or, les études, ça demande de l'argent. Et l'argent va venir dès lors que le chef de l'État aura signé pour apporter son appui politique. Parce que ce n'est pas pour que cet argent rentre dans l'escarcelle ou la caisse de ARD. C'est un cadeau que nous faisons à l'État congolais. C'est l'État congolais maintenant, en recevant cet argent de la BAD, qui va obtenir un bureau d'études congolais pour que les autres bureaux d'études internationaux plutôt, viennent sous son auréole avec les termes de référence qui sont de notre pays. Quand mon compatriote que j'apprécie beaucoup, qui a appelé de Lubumbashi avant, qui dit « nous n'en avons pas assez, il ne faut pas le vendre aux autres ». Prenons l'exemple très simple, nous au Katanga, nous mangeons du maïs, nous avons un papa qui a un grand champ de maïs, et nous allons dire parce qu'on a du maïs, on va se suffire à nous-mêmes, on n'a pas besoin de la viande, on n'a pas besoin des haricots que le voisin vend dans le quartier, on n'a pas besoin, je ne sais pas.
Professeur François,
si vous permettez, je vais chuter par là.
Oui.
Vous allez vendre une partie de votre maïs pour vous permettre d'avoir de l'argent et acheter des autres condiments pour accompagner votre maïs pour les cacottes. Voyez un tout petit peu, c'est ça la situation avec notre fleuve. Nous en avons suffisamment, c'est vrai. C'est que nous allons ponctionner ces 200 mètres cubes sur les 40 000 mètres cubes que le fleuve déverse dans l'océan Atlantique. Ça, c'est déjà un élément capital. Le point de captage, c'est en aval. C'est pas en amont du barrage d'Inga parce que les gens sont en train de spéculer là-dessus. Ça, c'est les études préliminaires. Le point où nous allons capter l'eau, il n'y aura pas la navigation en aval pour permettre à ce que les vagues ne puissent pas déranger. Voilà un tout petit peu la façon que nous pouvons aujourd'hui réfléchir quand nous voulons avancer en nous disant on a besoin des études préalables et ces études coûtent cher.
D'accord.
Et l'argent est disponible à la base, c'est question d'appui politique.
Michel Panzou nous appelle d'Ekbadolité. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question, Michel?
Oui, merci pour la parole. En fait, je voulais un peu participer à cette émission, vu son importance. Parler des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo, je trouve que c'est un point capital, étant donné que c'est à la fois une opportunité d'affaires pour la République démocratique du Congo. Le bassin du fleuve Congo, qui regorge une majeure partie, essentiellement ici en République démocratique du Congo, devait être capitalisé pour profiter à la RDC, pour profiter au développement économique de notre pays. Ça ne doit pas être seulement considéré comme une source de l'eau à bas, à se limiter à ce niveau. Non, on devait normalement penser à quel désir vendre, valoriser cette eau à ce qui en manque, étant donné que nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation, on aimerait également compatir au malheur de ceux qui sont ailleurs, le cas des Tchadiens qui manquent de l'eau, tout ça. Et donc, je pense que ça peut constituer un motif vraiment de capitalisation de l'économie pour notre pays.
D'accord. Merci Michel Panzou de Gbadolité qui propose qu'on puisse commercialiser l'eau de la République démocratique du Congo. Lolou Ramazani de Mbandaka nous a écrit, elle dit ceci, l'eau, on l'appelle aussi l'or blanc. Et c'est une des ressources naturelles des demain qui sera au centre de plusieurs conflits armés à travers le monde. La RDC, qui en possède de plus, doit l'exploiter rationnellement au profit de sa population et des générations futures. C'est encore un paradoxe que la population congolaise manque cruellement de l'eau pour satisfaire ce besoin. On est là en face d'une mauvaise gouvernance de la part de nos autorités. Professeur Hassan Nzovou.
Oui, merci beaucoup. L'eau, évidemment, d'après les derniers intervenants, c'est l'or blanc, ça c'est vrai. L'eau fait partie maintenant de ressources qu'il faut justement coter en bourse, comme on l'a dit au début de l'émission. Les paradoxes viennent justement du fait que parfois on revient sur la même chose, dans la mesure où il est possible de vendre un peu d'eau pour que nous puissions nous servir, pour que cette eau puisse également générer des ressources, pour que la population puisse se retrouver. À mon avis, il faut saluer ces projets-là et les porter à bras le corps. Parce que on ne peut pas continuer à garder les ressources en eau, alors que soi-même, on n'a pas les moyens ni de l'exploiter, ni d'en bénéficier. Alors pourquoi on va continuer à garder les ressources comme ça là? Mais un projet permet à ce qu'on valorise ou qu'on vende, qu'on amène de l'argent en République démocratique du Congo. Et donc moi, je soutiens et je salue l'initiative de ces projets pour qu'il aille de l'avant. Qu'il aille de l'avant et qu'il porte du fruit. Mais de l'autre côté, c'est plutôt la main de l'autorité qu'il faut vraiment appeler. Parce que si l'autorité étatique ne s'implique pas, ce projet ne pourra pas porter du fruit. Mais au niveau des provinces, au niveau des ETD et même au niveau du gouvernement central, on a encore des instruments dont on a besoin qui doivent arriver pour que le secteur soit suffisamment organisé, pour que le secteur soit attrayant, pour que d'autres investisseurs en dehors de ces projets arrivent et matérialisent l'accès à l'eau pour tous.
Bien, professeur Hassan Nzovou, expert en droit de l'environnement, merci et à la prochaine. Nous allons conclure aussi avec professeur François Kalulé-Voula, qui est promoteur du Centre des recherches, d'études et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. François Kalulé, comment comptez-vous mener les plaidoyers pour obtenir l'implication des autorités par rapport à ce vaste projet?
Non, j'aurais souhaité que vous puissiez me poser la question comment je vais payer les plaidoyers que vient de faire mon collègue très cher professeur Pirot. Il a tout dit. Le problème que nous avons aujourd'hui se résume en ce qu'il vient de dire. C'est l'appui politique. Et que cet appui politique, tout est déjà prêt. C'est question que l'autorité puisse s'investir pour nous accompagner. Et surtout aujourd'hui, par rapport à l'accompagnement de la loi, le professeur Pierrot, je crois que c'est Pierrot, qui l'a dit très bien, il faut des mesures d'encadrement, qu'on appelle les mesures d'application, qui doivent être prises au niveau des ministres. Et les arrêtés interministériaux pourront intervenir, et en deuxième temps, l'autorité locale, donc il y a les gouverneurs qui sont cités dans la loi relative à l'eau, auront la force de pouvoir mettre en application cette loi qui est si bien faite, pour permettre à ce que nous puissions pallier à cette insuffisance. Mais je vais chuter par remercier le bon Dieu qui est avec nous et qui nous a pourvu de toutes ces richesses. Et je sais qu'il amènera à ce que le peuple congolais puisse en bénéficier en premier. Parce que quand nous voyons l'avantage d'assainir le secteur économique, très souvent ce sont les étrangers. Je n'ai rien à voir avec les étrangers, mais c'est un produit congolais. Nous n'avons pas les moyens de la compétition avec ceux qui peuvent venir de l'extérieur pour exploiter cette eau. C'est question que notre pays, par son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que je cite avec respect, puisse prendre le devant, amener à ses enfants les moyens de pouvoir rendre agréable la vie de tous ceux qui viennent dans notre pays et de nous-mêmes aussi. Alléger la tâche à nos mamans qui vont dans les rivières, pour porter de l'eau sur la tête et tout ça. Ça, c'est archaïque. Avec le projet Voula, on aura les moyens. Maintenant qu'il fait le choix des animateurs de son gouvernement, les moyens seront utilisés de façon rationnelle pour que chaque province ait au moins 3 milliards de dollars par an. Et avec pour injonction d'accorder la priorité à l'eau et l'électricité.
Bien. François Kalulé Voula, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Thank you.